Et tout d'abord, les grands titres de ce 15 octobre, la Corée du Nord met l'Australie en garde concernant, je cite, un désastre pour son soutien des États-Unis et de la Corée du Sud. Les djihadistes de Daesh sur le point de quitter la ville de Raqqa en Syrie. Et puis le président français va donner une interview télévisée ce dimanche soir. La Corée du Nord lance un avertissement contre l'Australie si elle continue à soutenir les États-Unis et la Corée du Sud dans, je cite, leur provocation militaire contre elle. Dan Tian est le ministre délégué de la Défense en Australie. Il est sur Sky News et parle des sanctions que doivent respecter la Corée du Nord.
If they did that, then the rest of the international community would look to work with them. If they don't, we will continue to support our allies, the South Koreans, the Japanese, and everyone else who is threatened by this unpalatable behaviour by the North Koreans.
Dan Tian, le porte-parole de l'opposition fédérale, Ed Yusik, accuse la Corée du Nord de rendre la situation encore plus difficile avec de telles menaces contre l'Australie. Il était sur Sky News également ce dimanche matin.
I think Australia's foreign policy should reflect what's best for Australia and what positions us strongly, particularly within our neighbourhood, within the region. Obviously, we've got a long-standing friendship with the Americans, but that doesn't necessarily mean that we can't have differences of opinion, as you know, friends would. And I think it is important that we, as I said, you know, do what's right for the country first.
Ed Yusik de l'opposition fédérale. Selon les experts américains, la décision du président Donald Trump de ne pas certifier l'accord sur le nucléaire iranien va créer l'instabilité au sein de la communauté internationale. Écoutez Joel Rubin, président du Washington Strategy Group.
The danger here is that it creates a level of unpredictability, which I do believe that the president believe strengthens the United States, gives us an advantage in negotiations by being unpredictable. But in international affairs, unpredictability creates instability.
Et maintenant, l'analyse de la situation en Iran avec Shehrvoz Ghazi pour Radio France Internationale.
C'est le terme golfe arabique utilisé par Donald Trump à la place de golfe persique qui a provoqué la colère des Iraniens connus pour leur nationalisme. Depuis vendredi soir, les Iraniens ont pris d'assaut les comptes Twitter et Instagram du président américain avec 1 million de commentaires sur sa page Instagram. Les réseaux sociaux ont publié des photos des pierres tombales et des médailles de courage de soldats américains morts dans la région, portant la mention golfe persique en demandant à Trump de les regarder plusieurs fois par jour pour mieux apprendre la géographie. Le golfe persique existait avant même que Christophe Colomb ne découvre l'Amérique, a écrit un internaute sur la page Instagram du président américain. De nombreux Iraniens ont également dénoncé les déclarations de Donald Trump, qui a voulu afficher sa sympathie envers eux en rappelant sa décision d'interdire l'entrée des citoyens iraniens aux États-Unis. Sur le plan politique, malgré la virulence de ses propos, le président américain n'a pas osé classifier les gardiens de la révolution, l'armée d'élite du pays, parmi les organisations terroristes. Téhéran souligne également que les Européens et la Russie ont immédiatement rejeté la décision de Donald Trump contre l'accord nucléaire, signe de l'isolement des États-Unis.
Shehrvoz Ghazi pour RFI. La décision de Donald Trump va aussi aggraver la tension avec la Corée du Nord, selon Paul Stairs, directeur du Conseil sur les relations internationales, le think tank américain.
This will have a ripple effect on North Korea. I can't imagine that Kim Jong-un, the leader of North Korea, will now want to voluntarily give up his nuclear weapons when he sees that the United States has so easily changed its mind on the Iran nuclear deal.
Paul Stairs, tension entre les Peshmerga kurdes et les forces irakiennes dans la ville de Tuz, à 75 km au sud de Kirkuk. Tuz est aux mains des Peshmerga, Kirkuk est riche en pétrole. Reportage Nicolas Falaise pour RFI.
Il y a quelques semaines encore, les forces irakiennes et kurdes combattaient le même ennemi, le groupe État islamique. Désormais, les blindés de l'armée nationale sont stationnés au sud de Kirkuk, non loin des positions des Peshmerga, les combattants kurdes. Vendredi, les soldats irakiens ont avancé, reprenant deux petites localités d'où les Peshmerga s'étaient préalablement retirés. Des responsables kurdes affirment qu'un ultimatum leur a été adressé par Bagdad, leur donnant jusqu'à ce samedi soir pour évacuer et des secteurs dont les Peshmerga ont pris le contrôle il y a 3 ans, au moment où ils luttaient pour stopper la poussée des djihadistes du groupe État islamique. Cette dispute territoriale entre les Kurdes irakiens et le pouvoir central concerne des terres riches en pétrole et la situation s'est envenimée avec le référendum d'indépendance du 25 septembre dernier. Cette vive tension entre Bagdad et Erbil préoccupe les Occidentaux qui multiplient les appels au dialogue et à l'apaisement.
Les djihadistes de Daesh sur le point de quitter la ville de Raqqa en Syrie dans les heures qui viennent. Double attentat à l'explosif en Somalie hier. Plus de 20 morts et des dizaines de blessés selon un bilan encore provisoire. Écoutez le témoignage du secouriste, le docteur Aden Abdul Kadir.
C'était une énorme explosion que je n'avais jamais vue avant. Sur les 10 dernières années, je n'avais vu ni entendu un tel attentat. On a pu l'entendre dans tout Mogadiscio, qui fait 16 km carrés. Tout le monde l'a entendu. C'était dans un quartier très fréquenté, à une heure d'affluence, sur une place où il y a 4 hôtels. On ne pouvait vraiment pas compter. Plus de 100 personnes, plus de 100. J'étais le premier secouriste sur place et j'ai coordonné 10 ambulances et sur place il y avait plus de 50 cadavres.
Voilà, c'était le témoignage du docteur Aden Abdul Kadir. Plusieurs milliers de Californiens ont dû être évacués de leurs maisons alors que les feux de brousse continuent à brûler. Il y a plus de 36 morts selon les autorités et des centaines de personnes portées manquantes. Écoutez le capitaine Jimmy Bernal du Rancho Adobe Fire District.
And the biggest thing is we have lost way too many people on this fire. The intensity of the fire was incredible. So there, I think we are 36 people lost. And there's some multiple uncounted for. So the potential of more fatalities is huge, which is very, very sad.
Le capitaine du Rancho Fire District en Californie, le président français Emmanuel Macron va donner une grande interview télévisée ce dimanche soir. Le chef de l'État va essayer de défendre ses premières actions dans un climat social qui s'est tendu depuis la rentrée. Précision de Anne Souhaitemont pour RFI.
Ce sera un moment de pédagogie nécessaire, explique le porte-parole du gouvernement. Une heure d'émission en direct sur TF1, la chaîne privée de grande écoute. Un moment de pédagogie, à un moment charnière de ce début de quinquennat, le chapitre de la réforme du travail et ses ordonnances se referme, tandis que s'ouvre celui de la formation, de l'apprentissage et de l'assurance chômage. Le tout dans un contexte social délicat, après plusieurs jours de mobilisation contre les ordonnances. La semaine a été marquée par une manifestation de fonctionnaires. Ils étaient plus de 200 000 à défiler dans toute la France. Cette émission permettra-t-elle à Emmanuel Macron de corriger son image de président des riches? C'est l'autre grand enjeu de ce dimanche soir. Le chef de l'État va devoir défendre son premier budget, dont l'une des mesures phares, la transformation du très symbolique impôt sur la fortune en impôt sur la seule fortune immobilière, lui a valu d'être accusé de favoriser les plus aisés et de dériver vers une politique de droite.
Anne Souhaitemont, les entretiens entre l'Espagne et les indépendantistes de la Catalogne de plus en plus incertains suite aux déclarations du numéro 2 de l'exécutif catalan. Précision de Diane Cambon pour RFI.
La fenêtre de dialogue entre Madrid et Barcelone semble se fermer un peu plus après les déclarations du numéro 2 du gouvernement catalan. Oriol Junqueras a rappelé que les négociations avec Madrid devaient porter sur la construction de la République. Pour ce dirigeant catalan, il n'est donc pas question de renoncer au projet souverainiste. De leur côté, les radicaux du petit parti anticapitaliste catalan font monter la pression. Ils exigent du président Carles Puigdemont un oui franc en réponse au gouvernement espagnol. Ses alliés parlementaires veulent la déclaration de la République indépendante dès lundi à 10h. Dans une brève intervention, ils ont affirmé que cette situation d'ambiguïté suscite, je cite, « de la frustration et de l'inquiétude au sein de la population ». Ce jeune parti a annoncé des manifestations tout au long de la semaine prochaine à Barcelone pour revendiquer l'indépendance. Mais la réponse à donner ce lundi aux autorités espagnoles divise le camp souverainiste. Au sein même du gouvernement catalan, des voix discordantes se font entendre et appellent à renoncer à se séparer de l'Espagne. Le départ de la Catalogne de près de 600 entreprises a tiré la sonnette d'alarme au sein du mouvement nationaliste. Ils sont de plus en plus nombreux à évoquer la convocation d'élections régionales comme seule issue à cette crise.
Diane Cambon pour RFI. L'ancien procureur de la Cour pénale internationale, l'Argentin Luis Moreno Ocampo, mis en cause par le journal français en ligne Mediapart, a été suspendu de ses fonctions après avoir été accusé d'avoir détenu des comptes offshore pendant qu'il était procureur de la CPI de 2003 à 2012. Élection en Autriche ce dimanche pour renouveler la Chambre basse et élire un nouveau chancelier fédéral. Le leader conservateur Sébastien Kurz est favori dans les sondages devant l'extrême droite et les sociaux-démocrates. Écoutez ces électrices qui espèrent que l'extrême droite va échouer aux élections de ce dimanche.
I think something needs to change in Austria. It's either very strong to the left or very strong to the right. And the middle needs to come back. The middle class is missing.
No, I'm afraid to be living in a country where the women are suppressed because of their headscarf or what they're wearing, their exteriors, and I am afraid of that as I want to become a doctor.
Voilà deux Autrichiennes qui vont voter aux élections de ce dimanche. En Australie, l'opposition fédérale promet, si elle est élue au gouvernement, aux élections générales, $1 milliard d'investissement dans le secteur manufacturier pour innover et diversifier les industries. Bill Shorten, le chef de l'opposition, a fait cette déclaration à la conférence des travaillistes à Adélaïde.
We will make sure that you get access to the low-cost finance which gets you to the head of the pack. Australian business and Australian workers, they're as good, if not better, than anyone in the world. Our skills are good. If you vote for Labor at the next election, you will finally get a government who wants to believe and use one three-word slogan and make it used throughout Australia. That slogan I want to hear in the future is Made in Australia!
Voilà le chef de l'opposition fédérale, le ministre délégué au Trésor, Michael Sukhar, déclare, je cite, « C'est de l'argent pour la caisse noire des syndicats ».
We've seen recently the Labor Party opposing tax cuts for small businesses. We've seen the Labor Party opposing tax concessions for small business. And now again we see Bill Shorten wanting to use those increased taxes on small businesses to build up a union slush fund that he can then use to reward his union mates.
Voilà le ministre délégué au Trésor. Les élections partielles en Nouvelle-Galles du Sud hier avec le Parti national qui conserve la circonscription de Cootamundra et attendra demain pour confirmer celle de Murray malgré un défi serré de la part du Shooters, Fishers and Farmers Party. Le Labour conserve Blacktown dans les banlieues ouest de Sydney avec plus de 70% des votes. À Los Angeles, l'Académie des Oscars a décidé d'exclure le producteur Harvey Weinstein suite aux accusations d'agression sexuelle contre lui. Un mot de sport et le sélectionneur de Sydney, Graham Arnold, se prononce sur les spéculations quelle personne qui va remplacer Ange Postecoglou comme sélectionneur des Socceroos. Son nom a été cité, mais il se concentre sur le match de Sydney contre Wellington ce dimanche et il demande aux supporters de soutenir Ange Postecoglou dans ses efforts contre le Honduras pour que l'Australie puisse se qualifier pour le Mondial en Russie.
Ange will qualify Australia for the World Cup and until anything changes, there's nothing to talk about. The whole country needs to get behind the Socceroos and behind Ange because the game of football in this country we need to qualify for the good of the game.
Voilà Graham Arnold, le sélectionneur de Sydney FC. Météo ce dimanche en Australie, Perth maximale de 24 degrés, Adélaïde 25, Melbourne 20, Hobart 19, Canberra 23, Sydney 22, Brisbane 21, Cairns 31, Darwin 33, Alice Springs maximale de 32 degrés. Un rappel des grands titres de ce 15 octobre, la Corée du Nord met l'Australie en garde concernant, je cite, un désastre pour son soutien des États-Unis et de la Corée du Sud. Le président français va donner une interview télévisée ce dimanche soir.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/ SBS French.